Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié anonymement en 1678, La Princesse de Clèves est un roman de Madame de Lafayette qui occupe une place fondatrice dans l'histoire littéraire française. L'ouvrage se déroule à la cour d'Henri II, entre 1558 et 1559, et mêle personnages historiques et intrigues fictionnelles avec une grande précision de cadre. Il raconte l'expérience d'une jeune noble mariée, confrontée à la naissance d'un amour impossible pour le duc de Nemours dans un univers dominé par le regard des autres, les apparences et les calculs sociaux. Ce roman est souvent considéré comme l'un des premiers grands textes du roman psychologique et comme un jalon majeur du roman historique. Son intérêt ne tient pas seulement à son sujet amoureux, mais à la manière dont il explore la conscience, la vertu, la jalousie, le devoir et la difficulté de vivre selon ses principes dans une société de cour exigeante et instable. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un roman de cour où l'histoire sert de cadre à l'analyse morale, la force du livre vient d'abord de son ancrage dans la cour d'Henri II, un monde de prestige, de rivalité et de surveillance permanente. Madame de Lafayette ne se contente pas d'utiliser l'histoire comme décor, elle reconstitue un espace social régi par les alliances, les apparences et l'influence politique. Les figures historiques comme Catherine de Médicis, Diane de Poitiers ou les princes de la cour donnent au récit une densité concrète et une crédibilité rare pour son épogue. Cette précision historique n'a pourtant pas une fonction documentaire bilvade. Elle permet de montrer comment un milieu très codé transforme chaque geste privé en aide-maman public. Le roman fait ainsi sentir que la vie de cour est un système où l'on observe, interprète et juge sans cesse, ce qui rend les sentiments plus dangereux encore. L'historique et le moral sont donc liés à la cour et pas seulement un lieu de pouvoir, mais un laboratoire des passions humaines. Deuxièmement, le conflit central entre passions, vertu et devoir conjugal. Le cœur du roman repose sur la tension entre l'attirance de la princesse pour le duc de Nemours et la fidélité qu'elle doit à son mari. Ce conflit n'est pas présenté comme un simple adultère empêché, mais comme une épreuve intérieure où la conscience tente de se maintenir face au désir. Madame de Lafayette donne une valeur majeure à la retenue, à la pudeur et à l'intégrité morale, tout en montrant combien ses exigences sont coûteuses psychologiquement. La princesse n'agit pas par légèreté ni par caprice, elle mesure la portée de chaque choix, ce qui rend sa situation plus tragique. Le roman examine alors une question essentielle : peut-on rester vertueux sans se mutiler intérieurement ? Cette interrogation donne au livre sa modernité. Au lieu de glorifier la passion, il en analyse les conséquences sur l'âme, la réputation et les relations sociales. L'amour devient une force qui déséquilibre, expose et oblige à choisir entre bonheur personnel et fidélité à soi-même. Troisièmement, une écriture de l'intériorité qui fonde le roman psychologique, elle, une des originalités majeures de l'ouvrage, tient à sa manière de représenter la vie intérieure. Madame de Lafayette ne développe pas une intrigue riche en rebondissements. Elle privilégie l'observation des hésitations, des scrupules et des mouvements de la conscience. Cette sobriété narrative produit un effet très fort, car les événements extérieurs comptent moins que la manière dont ils sont perçus et interprétés par l'ex-personnage. La princesse devient ainsi un personnage profondément analysé, dont les réactions sont décrites avec précision et retenue. Le texte montre comment une émotion naît, se fixe, se cache ou se transforme sous la pression du devoir. Cette attention aux nuances du sentiment explique pourquoi le roman est souvent vu comme un précurseur du roman psychologique moderne. Il n'idéalise pas les passions, il les examine, les ramène à leur vérité la plus fragile, et fait de la lucidité elle-même une source de souffrance. La profondeur du livre vient donc moins de l'action que de la finesse de l'observation intérieure. Quatrièmement, la réputation publique comme menace constante pour la liberté individuelle. Dans La Princesse de Clèves, l'identité sociale d'une personne dépend largement de ce que la cour voit, suppose ou commente. La réputation devient une réalité presque aussi puissante que les faits eux-mêmes. C'est pourquoi le livre insiste tant sur le secret, la rumeur, l'aveu et la dissimulation. La princesse ne se bat pas seulement contre son inclination, mais contre le risque de perdre son honneur aux yeux du monde. Ce point est décisif, car il montre que la liberté individuelle est limitée par une société où la surveillance est collective et où l'image publique conditionne la valeur morale. Le roman met particulièrement en lumière la vulnérabilité des femmes dans cet ordre social, même si les hommes y sont eux aussi soumis à l'ambition et à la jalousie. La confession de la princesse, loin d'être un simple épisode sentimental, révèle le prix de la transparence dans un univers fondé sur la méfiance. La réputation agit alors comme une prison invisible, plus redoutable encore que les interdits formels. En dernier lieu, une fin marquée par le renoncement et la radicalité morale, la conclusion du roman distingue nettement l'ouvrage d'un récit d'amour traditionnel. Après la mort de son mari, la princesse refuse de céder à une logique de bonheur sentimental et choisit le retrait. Cette décision peut paraître sévère, voire déconcertante pour un lecteur moderne, mais elle donne au livre sa cohérence profonde. Madame de Lafayette pousse jusqu'au bout une réflexion sur la fidélité, le sacrifice et les limites du désir humain. Le renoncement n'y est pas présenté comme une simple défaite. Il devient une forme de vérité intérieure, presque une victoire austère sur les illusions de la passion. En cela, le roman se démarque des histoires amoureuses qui célèbrent l'accomplissement sentimental. Il ne cherche pas à résoudre le conflit par l'union des amants, mais à montrer qu'il existe des choix irréversibles fondés sur la conscience morale. Cette fin laisse une impression durable parce qu'elle refuse le confort du dénouement heureux et transforme l'amour en problème éthique, plutôt qu'en simple expérience affective. En conclusion, La Princesse de Clèves s'adresse aux lecteurs qui s'intéressent aux classiques français, à l'histoire littéraire, à la psychologie des sentiments et aux récits où le conflit moral prime sur l'action. Elle est particulièrement précieuse pour ceux qui veulent comprendre la naissance du roman moderne, car elle associe un cadre historique rigoureux à une analyse intérieure d'une rare finesse. Le livre offre un intérêt intellectuel durable, il permet d'observer comment une société de cour façonne les comportements, comment la réputation gouverne les choix, et comment la lucidité peut devenir une source de drame. Pour un lecteur contemporain, il apporte aussi une réflexion toujours actuelle sur la pression sociale, l'image publique et la tension entre désir personnel et intégrité. Ce qui le distingue des autres romans historiques ou sentimentaux est sa retenue stylistique et sa profondeur morale. Là où beaucoup de récits misent sur l'intensité de l'intrigue, celui-ci fait du silence, de l'aveu et de l'examen de soi les véritables moteurs du sens. C'est ce mélange de précision historique, de sobriété formelle et de gravité psychologique qui en fait une œuvre unique et durable. Si vous souhaitez soutenir Madame de Lafayette, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.